Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur, sixième cassette, deuxième face, page 175. Chapitre 23, Kersac à Paris. Kersac arriva à Paris de grand matin et prit un fiacre. Autrefois, il n'y avait pas d'auto, bien sûr. Et au lieu de taxi, on avait des voitures à cheval qui s'appelaient des fiacres. Il prit un fiacre comme le lui avait recommandé Jean, qui lui avait donné l'adresse d'un hôtel de la rue Saint-Honoré, tout près de la rue Saint-Roch. Il prit une chambre au sixième, déjeuna copieusement pour commencer, fit une toilette complète, revêtit sa belle redingote et, d'après les indications d'une employée de l'hôtel, se rendit chez Jean dans la maison de Madame de Grignan. Il était 8 heures quand il arriva. « Qui demandez-vous, monsieur ?» demanda le concierge. Hé, qui voulez-vous que je demande ?» répondit Kersac, mon brave, « si ce n'est mon petit Jean. »«
Quel petit Jean, monsieur ?»«
Comment quel petit Jean ? Ben, celui qui habite dans cette maison, parbleu. Je n'en connais pas d'autre, et pas un qui vaille celui-là. »
Le concierge sourit. Il comprit ce que demandait Kersac.
« Si vous voulez entrer, monsieur, dit le concierge, je vais prévenir Jean que vous le demandez. Qui faut-il annoncer, monsieur ?»«
Kersac, son ami Kersac. »«
Suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur, dit le concierge. »
Kersac suivit le concierge pas à pas. Arrivé à l'escalier, il s'arrêta.
« Mais... par où faut-il monter ?» demanda Kersac.
« Il faut monter par l'escalier qui est devant vous, monsieur. »«
Sur cette belle étoffe qu'on a mise là tout du long ?»«
Oui, monsieur, il n'y a pas d'autre chemin. »«
Eh bien, dit Kersac, excusez du peu, mon petit Jean ne se gêne pas et il marche là-dessus tous les jours. »
10 fois, 20 fois par jour, monsieur.
Oh, si ça a du bon sens de faire marcher sur de belles étoffes comme ça.
Kersac se baissa, passa la main sur le tapis.
C'est doux comme du velours. Ça ferait de fameuses couvertures de cheval. Et des manteaux excellents et qui vous tiendraient joliment chaud.
Kersac se décida pourtant à poser un pied, puis l'autre, sur le beau tapis. Il montait lentement, avec respect pour la belle étoffe, regardant derrière lui à chaque pas pour voir s'il ne l'avait pas sali avec ses bottes couvertes de poussière. Le concierge le fit entrer dans l'antichambre et alla prévenir Barcus. « Oh, Jean va être bien content, dit Barcus. Je vais l'envoyer à M. Kersac. Il est ici à côté dans l'office.
Jean, vite! « Viens voir ton ami, M. Kersac, qui vient d'arriver. »«
M. Kersac ?» s'écria Jean. « Quel bonheur ! Où est-il »
Il avait à peine dit ces mots que la porte du vestibule s'ouvrit et que la tête de Kersac apparut.
« Monsieur Kersac ! Cher M. Kersac !» s'écria Jean en courant à lui.
« Jean, mon brave garçon !» répondit Kersac en le serrant dans ses bras et en l'embrassant de tout cœur.
« Cher monsieur Kersac, répita Jean, que vous êtes bon d'être venu, de vous être dérangé, d'avoir quitté votre ferme. Que je suis heureux de vous voir. Donnez-moi des nouvelles de maman. Si vous saviez comme je suis content de la savoir chez vous, elle doit être si heureuse avec vous. »«
Ah, je me flatte qu'elle n'est pas malheureuse, répondit Kersac. Mais comme te voilà grandi, et pas en l'aidit, je puis le dire en toute vérité. » « Beau garçon, mais sais-tu que tu es presque aussi grand que moi ? Tu as... mais quel âge donc ?»«
17 ans dans 3 mois, monsieur Kersac. »«
C'est ça, c'est bien ça. J'ai 38 ans, moi. »«
Jean, tu devrais proposer à monsieur Kersac de prendre quelque chose, » dit Barcus, qui avait regardé et écouté en souriant.
« Bien merci, monsieur, dit Kersac. Vous êtes bien honnête. J'ai mangé en arrivant une fameuse miche de pain et une assiettée de fromage. Mais
Votre pain de Paris ne vaut pas le pain de la campagne. Ça ne tient pas au corps. On a beau avaler, on sent toujours l'estomac vide. »
Barkus se mit à rire et demanda à Kersak de l'attendre un instant. Il alla trouver M. de Grignan qui faisait sa toilette.
« Monsieur voudrait-il bien me permettre, dit Barkus, d'offrir un verre de vin à M. Kersak, l'ami de Jean, qui vient d'arriver et qui a l'air d'un bien brave homme.
« Certainement, mon ami, donnez-lui tout ce que vous voudrez. »
« Et monsieur veut-il me permettre de donner un petit congé à Jean pour qu'il soit libre de promener son ami ?»«
Je ne demande pas mieux, mon bon Barkus, mais c'est vous qui en souffrirez. »«
Oh, monsieur, je ne suis pas embarrassé pour l'ouvrage. Le concierge me donnera un coup de main. Et ça fait plaisir de faire plaisir à un bon garçon comme Jean et à un brave homme comme monsieur Kersak. »
« A-t-il vraiment l'air d'un brave homme ?» demanda Monsieur de Grignan.
« Oh, d'un brave homme tout à fait, monsieur. Un grand homme, costaud, 1m85 au moins, avec des épaules, des bras, des poings à assommer un bœuf. Et avec ça, un air tout bon, tout riant, l'air d'un bonhomme tout à fait.
Et si monsieur voulait bien permettre que je lui propose de rester ici.
Très volontiers, Barkus, dit monsieur de Grignan. Vous pourriez lui proposer, si ce n'est que pour peu de jours, de coucher et de manger chez moi. De cette façon, Jean le verra tout à son aise et vous ne vous éreinterez pas de travail.
Merci beaucoup, monsieur, dit Barkus. Je lui proposerai de la part de monsieur.
Barkus se retira fort content et rentra avec empressement dans l'antichambre où il trouva Kersak et Jean causant avec animation.
Monsieur Kersak, dit Barkus, monsieur vous propose de rester ici chez lui. Nous avons le logement et la table à vous offrir.
Jean sauta de dessus sa chaise.
Oh, merci, monsieur Barkus. C'est un effet de votre bonté, je le vois bien. C'est vous qui l'avez demandé à monsieur.
Mais dis donc, Jean. « C'est indiscret, ça, dit Kersak. On dit qu'à Paris, chacun a son coin. Je ne veux déplacer ni gêner personne. J'aime mieux retourner à l'hôtel. »«
Oh, mon cher monsieur Kersak, dit Jean, puisque monsieur le permet, puisque le bon monsieur Marcus l'a demandé. »«
Acceptez, acceptez sans crainte, monsieur Kersak, dit Barkus. Nous avons des chambres, plus qu'il ne nous en faut, voyons. » « C'est d'accord ?»
Kersak lui tapa dans la main.
« C'est dit. Top là, je reste. Vous avez l'air de braves gens ici. Je voudrais bien connaître les maîtres de gens. J'aime bien les braves gens. »«
Vous les verrez bientôt, monsieur Kersak, dit Barkus. Jean, dans quelle chambre mettons-nous ton ami ?»«
Dans la mienne. Je vous en prie, monsieur Barkus, je le verrai bien mieux.
Oh !» « J'aimerais bien cela, moi aussi, dit Kersak. Cela me rappellera la nuit où tu m'as si bien soigné, Jean, à l'auberge de Malensac. Et ce Jeannot que tu voulais me faire aimer, à propos, où est-il, cet animal de Jeannot ?»«
Il est bien placé à ce qu'il m'a dit, répondit Jean, mais je ne le vois pas souvent. »«
Pourquoi ça ?»«
Parce qu'il a des idées qui ne sont pas les miennes et des goûts que je n'ai pas. »
Barkus interrompit la conversation pour les engager à aller déjeuner. Jean, qui avait bon appétit, ne se le fit pas répéter. Il emmena Kersak pour le présenter aux cuisiniers et aux autres domestiques. Kersak déjeuna une seconde fois, comme s'il n'avait pas déjeuné une première. Puis Jean lui proposa de venir voir sa chambre.
« Sac à papier, mon garçon !» s'écria Kersak. « Comme tu es logé ! Et toutes ces affaires sont à toi ?»«
Tout, tout, monsieur, regardez bien. Voyez mes beaux habits, mon linge, ces excellents livres. Tout ça m'a été donné par le meilleur des hommes, le plus charmant et en même temps le plus charitable. Vous devinez que c'est de monsieur Abel que je parle.
« Ah oui, ce brave monsieur que tu aimes tant !»
Et que j'ai tant de raisons d'aimer, monsieur Kersak. Si vous saviez comme il a été et comme il est bon pour Simon et pour moi.
Et comme il me donne de bons conseils, et comme il a la bonté de m'aimer, c'est ça qui me touche le plus, que lui, grand artiste, riche, spirituel, si couru, si choyé, veuille bien aimer un pauvre domestique, un garçon comme moi.
« J'aime ce monsieur Abel, dit Kersak, et toi, je t'aime d'autant plus que tu l'aimes et que tu en parles avec tant d'amitié. »
C'est qu'on est si reconnaissant, monsieur Kersak, envers ceux qui vous aiment, quand on est seul, loin de sa famille.
« Ah, à qui le dis-tu ? Moi qui n'ai pas de famille et personne à aimer. Aussi, je veux m'en faire une. Ça me pèse trop de vivre seul. »
Comment ferez-vous pour vous faire une famille, monsieur Kersak ?
Parbleu, je me marierai, pas plus difficile que ça, comme fait Simon.
Mais Simon est jeune, et vous ne l'êtes plus.
Ah, je le sais bien. Aussi n'épouserai-je pas une jeunesse de 18 ans, comme fait Simon. Je prendrai une femme de mon âge, ou à peu près.
Et où la trouverez-vous ?
Elle est toute trouvée, pardi.
Ta mère ! Jean fut surpris d'abord, puis se mit à rire.
Ah, 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 maman, maman ! Mais vous n'y pensez pas, monsieur. Maman a quelque chose comme 33 ou 34 ans. Et moi, j'en ai bien 38 ou 39. Vois-tu, Jean, j'ai besoin de quelqu'un de confiance près de moi pour gouverner ma ferme. Et puis, quelqu'un de bon et de soigneux que je puisse aimer. Quelqu'un de rangé et d'économe, qui me retienne quand je veux faire trop de dépenses. Quelqu'un de propre, d'aimable, qui ne repousse pas les gens qui viennent à la ferme faire des affaires avec moi. Eh bien, je trouve toutes ces qualités dans ta mère. Elle paraît plus jeune que son âge, mais ça ne fait rien. Cela vaut mieux que si on pouvait la prendre pour ma mère, à moi. Cela te déplaît-il, mon ami ?
Mais comment cela me déplairait-il, monsieur Kersak ? C'est au contraire un bonheur, un très grand bonheur. Pauvre maman qui a été si malheureuse. Et le bon Dieu lui envoie la chance de devenir la femme d'un brave, excellent homme comme vous, monsieur. Mon cher monsieur Kersak, vous serez donc mon père.
Ah, c'est drôle tout de même. Tu n'y pensais pas, Jean, ni moi non plus. Quand je te menais en carriole à Malensac,
eh bien, tu ne croirais pas une chose. C'est que je m'étais si bien attaché à toi dans cette journée de carriole que j'ai été voir ta mère pour toi, que je l'ai soignée pour toi et que l'idée d'en faire ma femme m'est venue pour toi, pour te ravoir un jour et pour te faire un sort. Et puis... il faut te dire aussi que j'ai reçu, il y a environ 3 mois, une lettre de quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui a signé un ami et qui me dit « Si vous voulez être heureux, monsieur Kersak, et si vous êtes le brave, l'excellent homme que je crois, épousez la mère de votre jeune ami Jean, vous n'aurez pas à vous en repentir. » C'est cette lettre qui m'a décidé. J'ai pensé à ton avenir, au mien, et je me suis dit, Hélène sera ma femme et Jean sera mon fils.
Merci, monsieur, dit Jean, merci, mille fois merci. J'ai réellement trop de bonheur d'avoir rencontré deux hommes aussi excellents que vous et monsieur Abel. Oh, ça dis donc, je voudrais bien le voir, moi, ton monsieur Abel. Je l'aime rien que de t'en entendre parler.
Je lui dirai, monsieur, je lui dirai. À présent, monsieur, je vais aller à mon ouvrage pour ne pas tout laisser à faire à ce bon monsieur Barcus qui s'éreinte pour me donner du bon temps.
Je vais y aller avec toi, je ne te quitte pas d'une semelle. Je te regarde déjà comme mon fils, mais...
chut ! N'en parle à personne qu'à Simon.
On rirait de moi et cela ne m'irait pas. Je leur donnerais une volée de coups de poing qui gâterait la noce.
Oh, permettez-moi, monsieur Kersak, de le dire à monsieur Abel. J'ai l'habitude de lui parler de tout ce qui m'intéresse.
Bon, eh bien, dis-le, mon ami. Je lui dirais moi-même si je le voyais.
Chapitre 24. Kersak et Monsieur Abel font connaissance. Avant de quitter la chambre, Kersak serra Jean dans ses bras et avec une telle force que Jean demanda grâce. Il étouffait. Tous deux descendirent en riant. Jean se mit à nettoyer et cirer les chaussures. Kersak s'y mit aussi avec ardeur et tous deux causaient avec tant d'animation qu'ils n'entendirent pas entrer Monsieur Abel. Il les regardait depuis quelque temps en souriant lorsque Kersak se retourna.
« Tiens !» dit Kersak. « Qu'est-ce qui vient nous déranger ?»
Jean se retourna à son tour, jeta brosse et souliers et s'avança précipitamment vers Monsieur Abel.
« Cher, cher monsieur, encore un bonheur. C'est Monsieur Kersak que vous voyez là. Il m'annonce... Vous ne devineriez jamais quoi. Il m'annonce...
Eh bien, qu'il épouse ta mère, parbleu, c'est clair.
Comment avez-vous deviné ? Dit Jean tout étonné.
Tu sais que je devine tout ce qui te concerne.
C'est vrai, ça, monsieur. Nous nous entendons si bien.
Kersak était resté la bouche ouverte, les yeux écarquillés, tenant une brosse en l'air d'une main et une bottine de l'autre. Monsieur Abel s'élança vers lui en riant. Kersak, sans penser au cirage qui noircissait ses mains, prit celle de Monsieur Abel dans les siennes et les serra avec la force d'un charretier fort comme Hercule. Monsieur Abel, qui ne lui cédait en rien sous ce rapport, serra à son tour jusqu'à ce que Kersak eût jeté une espèce de cri de douleur.
« Sac à papier ! Quelle pogne ! Eh bien, monsieur, si vous êtes de cette trempe, il vaut mieux vous avoir pour ami que pour ennemi. » « Dis donc, Jean, tu ne m'avais pas dit ça. »«
C'est que je ne le savais pas. Monsieur Abel m'avait toujours serré les mains, bien doucement, sans me faire de mal. »«
Oh, mon Dieu, regardez vos mains, monsieur. Elles sont pleines de cirage. »« Oh, 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 c'est ma foi vrai. Elles sont noires comme si j'avais ciré mes bottes moi-même. » « Bien pardon, monsieur, s'écria Kersak, c'est moi, je n'y ai pas pensé. C'est que vous veniez de parler de vous, monsieur, alors, vous comprenez ?»« Je comprends, » dit Abel en adressant à Jean un sourire affectueux. « Et puisque j'ai les mains noires comme les vôtres, je vais vous aider à dépêcher votre ouvrage. Nous allons nettoyer tout cela comme trois bons amis. »
Monsieur Abel mit un tablier de Barcus, saisit une brosse, une petite bottine de Suzanne et se mit à brosser et à cirer comme un vrai nettoyeur de chaussures. Kersak le regardait avec un étonnement qui faisait rire Monsieur Abel, déjà enchanté du nouveau rôle qu'il s'était adjugé. Quand ils eurent fini, Abel proposa de descendre à la cuisine pour se savonner les mains. Ils y allèrent tous les trois, et le cuisinier, accoutumé aux excentricités de Monsieur Abel, lui présenta une terrine d'eau tiède et un morceau de savon, sans demander d'où provenait ce cirage sur les mains de Monsieur Abel. Jean et Kersak se lavèrent dans un seau.
« Au revoir, mon ami Kersak, » dit Monsieur Abel en s'en allant. « Je suis entré en passant pour savoir des nouvelles de mon pauvre petit Roger. Jean, sais-tu comment il va ? Il était bien souffrant hier soir. »
Je n'ai pas encore eu de ses nouvelles ce matin, monsieur. L'arrivée de monsieur Kersak m'a tout bouleversé. J'étais si content de le revoir.
Je vais avoir des nouvelles par mon ami Grignan. Je reviendrai dîner. Préviens Barcus.
Oui, monsieur. Au revoir, monsieur.
Au revoir, mon enfant. À ce soir, monsieur Kersak. Vous savez que nous sommes ensemble témoins pour le mariage de Simon.
Oui, monsieur, c'est bien de l'honneur pour moi.
Et pour moi donc, je ne connais rien de plus respectable qu'un honnête cultivateur, brave homme et faisant le bonheur de tous ceux qui l'entourent. J'ai les mains propres, ajouta-t-il en tendant sa main à Kersak, et vous aussi. Nous pouvons nous donner une poignée de main, mais... sans nous briser les os. »
Kersak prit la main d'Abel et la serra un peu trop fort à l'idée de Monsieur Abel.
« Prenez garde, » dit Monsieur Abel, « Si vous serrez, je serre.
Et moi, je lâche, dit Kersak en reculant d'un pas.
Abel s'en alla en riant et monta chez M. de Grignan. Il ne tarda pas à revenir et dit à Jean en passant.
Roger va un peu moins mal. Il voudrait te voir et il te demande de lui amener notre ami Kersak dont je lui ai parlé. Au revoir, mes amis. Jean, dis à Simon qu'il vienne me voir à l'heure réglée pour la noce et pas de temps à perdre. C'est pour après-demain. Tâchez de venir tous les deux avec lui. Nous arrangerons les heures, les moyens de transport, etc.
Monsieur Abel sortit. Monsieur Kersak, dit Jean, je vais vous laisser un moment pour aller chez le pauvre petit monsieur Roger. Il voudrait bien vous voir, le pauvre enfant. Vous voudrez bien que je vienne vous rechercher. N'est-il pas vrai? Il a si peu de distraction, le pauvre petit. Et il est si gentil, si doux, si patient. Un vrai petit ange.
Je t'attends, mon ami, dit Kersak, je t'attends.
Lorsque Jean entra chez Roger, Madame de Grignan était près de Roger. Celui-ci tourna la tête avec effort.
« Et ton ami, monsieur Kersak, dit-il, je voudrais bien le voir, si cela ne l'ennuie pas trop. »«
Je vais vous l'amener, monsieur Roger, dit Jean. Il sera bien content de faire connaissance avec vous. Il vous aime déjà, sans vous connaître. »«
Il est trop bon. Tous ceux qui m'aiment sont trop bons. Je n'ai rien fait pour qu'on m'aime. » Tout le monde se fatigue pour moi, et moi je ne fais rien pour personne.
Rien? Vous appelez rien de prier pour nous tous comme vous le faites, cher monsieur Roger?
Quand je serai près du bon Dieu et de la Sainte Vierge, je prierai mieux. Ici je prie mal, parce que je souffre trop. Je serai bien heureux ce jour-là, quand je serai au ciel.
Roger ferma les yeux, joignit ses petites mains comme s'il priait. Ensuite, il dit à Jean.
« Mon bon Jean, amène-moi, monsieur Kersak, je t'en prie. C'est peut-être mal d'être si curieux, mais j'ai envie de le voir pendant que je suis un peu mieux. »
Jean sortit et alla demander à Kersak de monter. Pour arriver chez Roger, il fallait passer par le salon. Kersak s'y arrêta, frappé d'étonnement. La tenture de damas rouge, les fauteuils dorés, les divers meubles de fantaisie qui ornaient le salon, le lustre en cristal et en bronze, le beau tapis d'Aubusson, tout cela était pour lui les contes des mille et une nuits, des richesses sans pareilles. Jean, voyant son admiration, s'arrêta quelques minutes. Puis, ouvrant la porte de Roger, il fit entrer Kersak. Ce dernier fut vivement impressionné par l'aspect de cette chambre. Le demi-jour, ménagé à dessein pour ne pas fatiguer les yeux du petit malade, le silence qui y régnait, l'attitude accablée mais résignée de Madame de Grignan, assise près du lit de son enfant, l'enfant lui-même d'une maigreur et d'une pâleur effrayantes, les mains jointes, le visage légèrement animé par un doux sourire, tout cet ensemble produisit sur Kersak une impression si vive de respect, d'attendrissement, que sans penser à ce qu'il faisait, il se laissa tomber à genoux près du lit de ce pauvre petit enfant. Roger, surpris et touché, voulut prendre de sa petite main décharnée celle de Kersak, mais il n'en eut pas la force. Kersak, qui avait senti le mouvement, prit bien doucement cette petite main dans les siennes, la baisa et la plaça ensuite sur sa tête, comme pour avoir une bénédiction. Puis, se tournant vers Madame de Grignan qui l'entendait pleurer, « Pauvre dame, dit-il, pauvre mère !» Madame de Grignan répondit qu'elle était heureuse de voir souffrir si saintement Roger. Kersak se releva.
Monsieur Kersak, dit Roger, Jean vous aime beaucoup. Je vois qu'il a raison. Vous aimez le bon Dieu et vous le priez.
Je prierai aussi pour vous. » Et voyant une larme rouler le long de la joue de Kersak, Roger ajouta : Il ne faut pas pleurer pour moi, monsieur Kersak. Je souffre ce que le bon Dieu m'envoie. Je sais que bientôt le bon Dieu me prendra avec lui. Je serai alors si heureux, que je ne penserai plus à mes souffrances. »
Roger se reposa un moment. Kersak voulut parler, mais il ne put pas articuler une parole. Il se borna à regarder la mère et l'enfant avec une respectueuse émotion. Enfin, oubliant la beauté des meubles, il s'assit dans un fauteuil habituellement occupé par M. de Grignan et garda dans sa main la main de Roger. Roger pressa légèrement, bien légèrement, car la force lui manquait, la grosse main de Kersak. Jean se tenait près d'eux. Il regardait tantôt Roger, tantôt Kersak. Si M. Abel avait pu voir l'expression de son regard, il aurait fait un cinquième tableau de cette scène touchante dont l'âme, le héros, était un enfant de 10 ans, bien près de la mort. Le silence, l'immobilité amenèrent chez Roger un calme, un bien-être qui finit par le sommeil. Quand Madame de Grignan le vit endormi, elle dégagea tout doucement la main de Roger de celle de Kersak, fit signe à ce dernier de ne pas faire de bruit et de s'en aller avec Jean. Puis elle fit de la main un signe amical à Kersak, qui sortit avec Jean. Kersak ne regarda pas le beau salon en s'en allant. Il ne dit pas une parole. Arrivé dans la chambre de Jean, Kersak s'assit et essuya ses yeux du revers de sa main. « Je ne me souviens pas, » dit Kersak, « d'avoir été ému comme je l'ai été chez ce pauvre enfant. Je me suis senti remué jusqu'au fond de l'âme. Ce petit être souffrant, si doux, si tranquille, si heureux. Et puis cette pauvre mère qui pleure, mais qui ne se plaint pas. Et tout ça, si calme. Et sentant la mort. Ah, jamais je n'oublierai les instants que j'ai passé là. J'y serais resté des heures si on avait bien voulu m'y laisser. » Il finit pourtant par se remettre. Jean chercha à le distraire en lui racontant d'abord des paroles charmantes du petit Roger, ensuite des aventures de café, puis le concert et le bal égayé par M. Abel. Kersak criait de tout son cœur quand Barkus vint les appeler pour déjeuner. Fin de la deuxième piste de la sixième cassette, page 189. Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur.